Bonjour, bonjour et bienvenue dans Histoire de Savoir sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Europolis, Thomas Gesseling ce micro. Aujourd'hui, nous allons parler de réchauffement climatique. Comme chaque début d'année, les agences de surveillance du climat publient leurs données pour chiffrer l'augmentation moyenne de la température à l'échelle mondiale, et cela par rapport à l'époque pré-industrielle, c'est-à-dire approximativement entre 1850 et 1900. Dans son communiqué du 10 janvier dernier, le service européen Copernicus indique que 2024 a été l'année la plus chaude depuis que les mesures météorologiques existent. Ce chiffre était particulièrement attendu, car le seuil des 1,5 degrés a été dépassé. On sait que un seuil de 1,5 degré est l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris sur le climat. Il est ainsi dépassé pour la première fois en 2024. On va voir avec notre invité du jour pourquoi ce nouveau record a étonné les scientifiques et quelles sont les hypothèses actuelles pour l'expliquer. Alors, notre invité du jour, c'est Cathy Clairbeau. Elle a publié un article dans la revue scientifique en ligne The Conversation. Le titre, pourquoi le record de température en 2024 est une surprise pour les scientifiques. Alors, Cathy Clairbeau est directrice de recherche CNRS à la Sorbonne et elle est professeure invitée à l'Université libre de Bruxelles dans la faculté des sciences. Après une thèse en sciences physiques dans le domaine de la spectroscopie à l'Université libre de Bruxelles et plusieurs séjours aux États-Unis, elle a orienté ses recherches vers l'étude de l'évolution de la composition atmosphérique sous l'influence des activités humaines. Elle nous parlera de tout ça au cours de cet entretien. Je vous rappelle le titre de l'article qu'elle a publié dans la revue scientifique en ligne The Conversation, pourquoi le record de température en 2024 est une surprise pour les scientifiques. On en parle dans un tout petit instant. degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est l'augmentation moyenne des températures mesurées par les agences de surveillance du climat pour l'année 2024. Un record qui ne s'explique que partiellement par les activités humaines émettrices de gaz à effet de serre et que les scientifiques cherchent désormais à comprendre. C'est ce qu'on peut lire dans un article signé par Cathy Clairbeau, qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Cathy.
Bonjour.
Vous avez signé cet article dans The Conversation, une revue scientifique en ligne de vulgarisation scientifique. Le titre, c'est « Pourquoi le record de température en 2024 est une surprise pour les scientifiques ?» C'est vrai que c'est une question intéressante parce qu'on pensait que c'était d'autorité publique que le réchauffement climatique était à l'œuvre et que les températures augmentaient, mais on va détailler tout ça. Je vous présente en quelques mots Cathy Clairbeau. Après une thèse en sciences physiques dans le domaine de la spectroscopie à l'Université libre de Bruxelles, spectroscopie, on en parlera tout à l'heure, vous avez fait plusieurs séjours aux États-Unis, vous avez orienté vos recherches vers l'évolution, l'étude de l'évolution de la composition atmosphérique sous l'influence des activités humaines à partir de données satellites obtenues par spectroscopie infrarouge. Et vous collaborez entre autres avec des agences spatiales et vous avez eu l'occasion de contribuer d'ailleurs aux travaux et aux rapports du GIEC. Aujourd'hui, vous êtes directrice de recherche CNRS. On comprend que ça vient d'Outre-Quiévrain, hein, CNRS. Chez nous, on dit FNRS en général. Et vous êtes professeur invité à l'ULB. Vous travaillez sinon pour la Sorbonne, un professeur invité à la faculté des sciences. C'est bien ça?
Oui, oui, c'est tout à fait ça. Donc, ici, à l'ULB, je donne le cours de sciences de l'atmosphère et du climat.
Sciences de l'atmosphère et du climat. Et alors, la spectroscopie, qu'est-ce que c'est en deux mots, Cathy Clairbeau?
Alors, c'est étudier l'intérieur des molécules grâce, en fait, à des interactions entre la lumière et la matière. Et on parvient à disséquer comment ces molécules vibrent et bougent. Et grâce à ça, on peut deviner leur concentration, par exemple, dans l'atmosphère.
Voilà, on comprendra que tout ça est très important pour essayer de comprendre, entre autres, le réchauffement climatique. Comme chaque début d'année, les agences de surveillance du climat ont publié leurs données pour chiffrer l'augmentation moyenne de la température à l'échelle mondiale par rapport à l'époque pré-industrielle. L'époque pré-industrielle, c'est-à-dire entre 1850 et 1900, la grosse louche, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est depuis, on va dire, la machine à vapeur et tout ça.
Depuis la machine à vapeur. Dans son communiqué de début janvier, le service européen Copernicus indique que 2024 a été l'année la plus chaude depuis que les mesures météorologiques existent. Alors, le chiffre particulièrement attendu de 1,5 a été dépassé, hein, de quelques centièmes, je crois.
C'était la mesure qu'ils ont établie pour 2024, c'était 1,6, donc un dixième de degré en plus.
C'est ça. Alors, c'était l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, hein, sur le climat, on le sait, et c'est dépassé pour la première fois en 2024. Donc, il y a un seuil qui nous alerte ici. On va voir avec vous pourquoi ce nouveau record a étonné donc les scientifiques et quelles sont les hypothèses posées actuellement pour essayer d'expliquer. Mais d'abord, ces agences de surveillance du climat, Cathy Clairbeau, c'est quoi exactement ?
Alors Copernicus, c'est vraiment l'agence de référence pour l'évolution du climat, c'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent toutes les mesures de température qu'on a, donc toutes les mesures qui sont utilisées pour faire la prévision météo, et ils les collectent et ils regardent que ces mesures soient homogènes depuis le début des mesures. Donc ils font une sorte de retraitement qui... comme vous savez, en fait, l'exploitation de toutes ces données évolue dans le temps et on s'améliore de plus en plus, sauf qu'à un moment, on se dit, bon, regardons comment les températures, par exemple, ont évolué dans le passé. Et on va prendre les mêmes outils pour analyser les températures entre 1900 et au jour d'aujourd'hui. Et Copernicus, c'est vraiment l'agence européenne qui est responsable d'établir quelles sont les variations de température sur des temps longs. Et c'est vraiment, en fait, c'est reconnu comme étant la meilleure agence, celle qui fournit les chiffres les plus complets. Il y a l'équivalent, on va dire, américain, mais Copernicus sont vraiment extrêmement bien organisés et ils ont, voilà, c'est vraiment reconnu comme une agence de référence.
Voilà, et le slogan de Copernicus, ouais, en français, hein, je le traduis, est « Des yeux européens sur la Terre ».
Oui, c'est ça, c'est vraiment l'agence qui rassemble, en fait, toutes les compétences européennes autour de la météo et donc de l'évolution du climat si on regarde les temps longs.
Il n'y a pas que les Européens, évidemment. Et puis, cette élévation plus rapide que prévu des températures de surface en 2023 déjà, et puis en 2024 encore, est au centre de nombreuses études actuelles, hein, on le sait. Et elle a fait l'objet d'une session dédiée à l'American Geophysical Union, qui a rassemblé plus de 25 000 scientifiques. C'était en décembre 2024. Ça a été décidé dans l'urgence ?
Non. Alors, il faut savoir que cette conférence-là, elle a lieu tous les ans. Donc, tous les mois de décembre, il y a cette conférence-là. Par contre, c'est la première fois qu'il y avait une session dédiée à l'étude de l'augmentation de la température pour 2024, parce qu'on va en parler, mais disons qu'autant en 2023, on s'attendait complètement à battre le record de température, autant en 2024, on s'attendait à ce que ça baisse un peu. Et on va expliquer un peu pourquoi, mais c'est la somme de différents facteurs. Et donc, voilà, avec les informations qu'on avait, on s'est dit, bon, en 2024, si on compare à 2023, ça va se stabiliser, peut-être même diminuer un petit peu. Et contrairement à ce qu'on pensait, l'année 2024 a été plus chaude que 2023.
Alors justement, parlons de ça. Il y a plusieurs éléments, hein, qui expliquent ou qui permettent d'avoir des tentatives d'explication de cette réalité. Entre autres, le phénomène El Niño. Hein, le phénomène El Niño qui a basculé en phase neutre, c'est-à-dire qu'il arrive sur une autre appellation qui s'appelle La Niña. Vous détaillerez peut-être ça dans un instant, hein, Cathy Clairbeau. Et ça, c'est depuis le mois de mai 2024. Les scientifiques s'attendaient donc à ce que les températures se stabilisent, comme vous venez de le dire, voire diminuent localement durant le second semestre de 2024. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les températures sont restées élevées, en particulier dans l'océan Atlantique Nord. Alors, pourquoi, donc à cause d'El Niño et La Niña, manifestement, rappelez-nous ce que représentent ces phénomènes.
Donc, pour comprendre les variations de température, il faut à la fois tenir compte de phénomènes naturels et à la fois de phénomènes liés aux activités humaines. Oui. Donc, il y a cette augmentation continue des gaz à effet de serre. Ça, c'est notre contribution au réchauffement climatique. Et elle, on peut voir ça comme une courbe qui augmente tout le temps.
Notre contribution à nous, humains.
Voilà, c'est ça. Avec, en fait, nos activités qui vont générer des gaz à effet de serre. Et c'est essentiellement la combustion de fuels fossiles. Donc, gaz, pétrole, charbon. Ça génère un fond continu de gaz à effet de serre. Ça, c'est, on connaît bien, on mesure bien. Se rajoute à ça un tas de phénomènes naturels dont il faut qu'on tienne compte si on veut expliquer ces variations de température. Parce qu'il faut savoir que la température, ce n'est pas une courbe d'augmentation continue, c'est d'année en année, les températures, on va dire, font une sorte de zigzag autour d'une moyenne qui a tendance à augmenter. Et nous, on connaît bien, en fait, les phénomènes dont il faut tenir compte. Le premier que je vais citer avant de parler de El Niño, c'est la variation de l'intensité du soleil. Il ne faut pas l'oublier. Mais tout ça, c'est bien mesuré, bien contrôlé. Et pour l'instant, on est dans un pic d'activité solaire. Donc, on sait qu'on est plutôt dans un haut de la courbe. Et donc, ça contribue, on va dire, à un dixième de degré d'augmentation de température.
D'accord.
Alors ça, c'était vrai pour 2023. C'est toujours vrai pour 2024. On est toujours plus ou moins maximum. Ça va commencer à baisser. Se rajoute à ça, et c'est le phénomène naturel le plus important dont il faut tenir compte, ce phénomène El Niño. Et ça, c'est un événement dont on peut... On sait qu'il arrive de manière récurrente, donc tous les quelques années, ça peut être 3, 4, 5, 6, 7 ans. Et il va conduire à augmenter massivement les températures dans le Pacifique. Et ça va, en fait, c'est une histoire de courant marin, mais ça va avoir une influence sur les températures de l'eau et sur la température de l'air, parce que tout ça communique, bien sûr. Et se propager un peu partout dans le monde. Et son effet, en général, reste à peu près 2 ans. Il y a eu un relativement important événement El Niño qui s'est déroulé donc en 2022, donc qui dure à peu près 2 ans. Mmh. Et donc, on a vu commencer à baisser en 2024. Et c'est pour ça qu'on pouvait, je ne suis pas Madame Soleil, mais c'était assez facile de prévoir que les températures allaient se stabiliser ou diminuer en 2024, parce qu'on sait que ce phénomène El Niño est plutôt dans sa phase La Niña, c'est-à-dire dans la phase où il y a moins d'élévation de température, les vents sont dans un autre sens, etc. Et malgré le fait que ce phénomène n'a plus cours pour l'instant, et ça on le mesure tous les jours avec nos données satellites, on n'est plus du tout dans un événement El Niño, on est plutôt dans une phase neutre, voire même des températures plus faibles que la moyenne, et pourtant les températures restent élevées. Et donc voilà, c'était ça l'objet de l'article, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Il y a un truc dont on ne tient pas compte ou qu'on comprend mal, en fait, voilà, encore maintenant.
Encore maintenant, il y a des hypothèses qui émergent, mais la communauté scientifique n'est pas d'accord absolument sur tout. Enfin, vous nous expliquez ça. Il y a entre autres un phénomène de boucle de rétroaction qui pourrait expliquer en tout cas cette température élevée en 2024, alors que, comme vous venez de l'expliquer, Cathy Clairbeau, on s'attendait quand même, suite à la fin du phénomène El Niño, cette période-là en tout cas, à une stabilisation ou une chute.
Oui, alors il y a plusieurs hypothèses qu'on développe pour l'instant pour essayer de comprendre pourquoi les températures sont restées élevées. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien au niveau des températures de l'océan, notamment pendant le phénomène El Niño. Il faut savoir que c'est surtout les températures dans le Pacifique qui augmentent. Et là, on avait des températures très élevées. Les gens qui sont allés nager, par exemple, en Bretagne et tout ça, s'en sont rendus compte. Il y avait des températures plus élevées que d'habitude dans l'Atlantique Nord. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore bien compris. Il y a probablement quelque chose qui se passe au niveau des courants marins, etc. Et on ne sait pas encore dire, maintenant, avec l'état de nos connaissances, si c'est un phénomène ponctuel ou bien si c'est quelque chose qui s'est installé sur le plus long terme. Et donc c'est... Autant on arrive à prévoir, parce qu'on sait qu'on accumule plus de gaz à effet de serre, on sait que les températures ont tendance à augmenter, autant localement, parfois, on ne comprend pas tout à fait les variations de température. Et donc là, ça c'est une des hypothèses, c'est voilà, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien sur comment cette année l'événement El Niño a conduit à des températures plus élevées et qui ne baissent pas encore, en fait, et qui contribuent à augmenter ces températures. Mais il y a d'autres scientifiques qui travaillent sur d'autres hypothèses. Et par exemple, il y a une équipe très récemment qui s'est demandé s'il n'y avait pas moins de nuages à certains endroits récemment. Et après, il fallait essayer d'expliquer pourquoi il y aurait moins de nuages. Et une chose qu'on observe, en tout cas avec l'équipe avec laquelle je travaille, c'est que pour l'instant, autant les gaz à effet de serre continuent à augmenter, avec les efforts qu'on met en place pour limiter les polluants, par contre, il y a des polluants qui baissent. Et il y a plusieurs types de polluants qui baissent dans les villes. Par exemple, Bruxelles est moins polluée maintenant que ce qu'elle était il y a 15 ans. C'est tout à fait une bonne nouvelle. Il y a aussi d'autres scientifiques qui pensent que ça peut être le fait que dans les fuels des bateaux, maintenant, on interdit le soufre. Et ce soufre générait aussi des particules. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les particules dans l'air, ça agit comme des noyaux de condensation pour les nuages. Et donc, il y a des endroits sur Terre où il y a moins de nuages. Et on se demande si ce n'est pas parce qu'il y a moins de pollution. Et donc, il y a moins de noyaux pour former ces nuages. Et donc oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Et donc voilà, une des hypothèses, ce serait qu'en 2024, il y a eu moins de nuages formés. Il faut savoir que l'essentiel de température, ça provient du fait que le soleil éclaire la Terre. La Terre va emmagasiner cette énergie et la restituer sous forme de radiation infrarouge. Ça, c'est le cycle normal. Qu'on soit là, être humain ou pas là, c'est comme ça que ça fonctionne depuis, depuis des milliards d'années, en fait. Et donc, quand le soleil, selon la couche de nuages, eh bien le rayonnement du soleil est plus ou moins capable de pénétrer cette couche de nuages et d'atteindre la surface de la Terre. Donc, dans l'hypothèse où ce serait lié aux nuages, c'est le fait que justement, il y a moins de nuages et donc il y a plus de rayonnement solaire qui atteint la surface de la Terre, donc plus de rayonnement infrarouge qui contribue à réchauffer les couches de l'atmosphère qui se régénéraient. Donc ça, c'est une des hypothèses.
Thank you.
Cathy Clairbeau, je rappelle qu'on parle d'un article que vous avez publié dans le magazine scientifique en ligne The Conversation. Pourquoi le record de température en 2024 est une surprise pour les scientifiques? Ça, c'est le titre dévolu à cet article. Il est émaillé, cet article, de pas mal de représentations graphiques, d'illustrations, entre autres sur ce dont vous venez de parler avec le rayonnement. Donc, on y voit plus clair quand on voit les petites flèches et les couleurs qui y sont associées. Je vous invite donc à aller sur le site de Conversation pour examiner tout ça. Il y a un autre phénomène qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que tout ça n'est pas réparti de la même manière sur la surface du globe, bien évidemment, et que parfois on ne comprend pas pourquoi à certains endroits il y a des phénomènes particuliers. Par exemple, on le sait que l'océan, la mer en général, se réchauffe deux fois moins vite que la Terre et que l'atmosphère. Et on remarque, et vous pointez ça, qu'au sud du Groenland, il y a une partie qui est qui est en dessous des températures moyennes, bien en dessous des températures moyennes, qui ne se réchauffe pas, voire qui a tendance à se refroidir. C'est étonnant pour vous, vous l'expliquez ?
Alors, oui et non, c'est-à-dire que maintenant, ça l'est plus, maintenant que j'ai compris la cause probable, mais c'est vrai que nous, avec l'instrument sur lequel on travaille, on surveille les températures deux fois par jour, partout autour de la planète. Ah. Et c'est vrai que quand on... Je veux dire, l'idée globale que répercute beaucoup la presse, c'est cette augmentation de température de 1,5 degré. Mais il faut vraiment garder en tête que c'est une moyenne sur toute la Terre. Et comme vous disiez, l'eau... En fait, il y a beaucoup d'eau sur Terre. Il y a 70% de la surface de la Terre qui est remplie d'eau. Et donc, l'eau se réchauffe moins vite que la Terre. Ça veut dire que, par exemple, au-dessus de la Belgique, l'augmentation, c'est déjà 2 degrés d'augmentation. Mais parce que on est, la mer, en fait, prend moins de chaleur que la Terre. Donc, enfin, juste ce que vous savez, c'est par exemple, vous êtes en vacances et il y a des variations de température, eh bien, vous pouvez toujours aller nager parce que la température de l'eau la veille va rester la même, même si la température de l'air est un peu plus fraîche ce jour-là. Mmh. Eh bien, partout autour de la Terre, ça se réchauffe plus vite et plus on monte vers les pôles, plus ça se réchauffe vite. Donc ça, on peut bien expliquer ça avec nos modèles qui représentent en fait comment toutes ces interactions entre l'eau, la Terre, les vents, tout ça fonctionne. Donc ça, c'est très bien connu que l'eau emmagasine moins de chaleur que la Terre. Et donc, cet endroit-là, au sud du Groenland, quand on observe effectivement que partout autour de la Terre, presque partout, les températures augmentent. Je reviendrai peut-être après sur la différence entre l'Inde et la Chine, où on voit des différences importantes. Et c'est intéressant d'expliquer pourquoi. Mais cet endroit-là, au Groenland, il y a deux hypothèses, et c'est probablement une combinaison des deux. C'est d'une part, la glace fond et s'échappe en fait dans la mer vers le sud du Groenland. Et donc, ça fait un point d'arrivée froid d'eau. Et d'autre part, il y a une partie du courant marin qui s'appelle l'Amok, qui fait demi-tour à cet endroit-là. Et on pense que les perturbations actuelles de la température de l'eau, etc., font que le courant fait demi-tour un peu plus bas en latitude, et donc ce point reste un peu plus froid, si vous voulez. Et donc on voit effectivement un point froid. Il y a quelques endroits du globe, en fait, qui sont intéressants à analyser, et les raisons sont différentes. Donc ça peut être les courants marins, là on va dire c'est une combinaison de la glace qui fond et les courants marins. Et d'autres endroits où on pense c'est plutôt les nuages qui jouent, ou dans le cas de l'Inde et la Chine, ça je trouve que c'est une des choses les plus intéressantes. Ces pays sont à la même latitude, donc là, les variations de température devraient être les mêmes. Et ce qu'on observe très clairement, c'est que la Chine se réchauffe beaucoup plus vite que l'Inde. Et ça, c'est lié à ce que j'évoquais tout à l'heure. En fait, la Chine, ils ont mis en place des mesures pour freiner les émissions de particules et la pollution en général. Donc, il y a un truc qui s'appelle le Clean Air Act depuis 2012 et qui fait que la pollution baisse en Chine, comme elle baisse d'ailleurs en Europe, comme elle baisse sur les côtes des États-Unis. Et ce n'est pas du tout le cas en Inde. La pollution continue à augmenter. Et donc, l'effet bizarre de ça, c'est que, justement, cette pollution agit comme un écran au rayonnement solaire, comme ce qu'on disait sur les nuages. Comme ce qu'on disait sur les nuages, c'est-à-dire que le rayonnement solaire rebondit sur les particules de pollution et atteint moins la surface de la Terre. Et vraiment, très clairement, c'est comme si la Chine se réchauffe à la même vitesse que on va dire, ce qu'on voit au-dessus de l'Europe, tandis que l'Inde, la température n'augmente pas parce qu'elle est... Alors, entre guillemets, c'est bizarre de dire ça, mais protégé par sa pollution. Entendons-nous bien, hein, il vaut mieux subir une petite augmentation de température que respirer la pollution tous les jours.
Sans doute un effet pervers, oui. Revenons à quelques fondamentaux, Cathy Clairbeau, si vous voulez bien. Sans atmosphère, la surface de la Terre serait beaucoup plus froide, moins 18 degrés Celsius. évaluée, ce qui rendrait impossible le développement de la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui et depuis quelques milliers d'années. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet de serre, est associé à la présence de gaz dits à effet de serre dans l'atmosphère qui absorbe le rayonnement émis par la Terre. C'est ce dont vous parliez tout à l'heure. Ça, c'est vraiment la base, en fait. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par?
Oui, c'est la base. C'est dans mon cours numéro 1 que je donne aux étudiants, c'est ça. C'est quelle serait la température s'il n'y avait pas d'atmosphère. Et donc, il faut savoir que l'effet de serre dont on parle tout le temps, c'est à la base un phénomène naturel. Et donc, on est protégé par cet effet de serre. On ne serait pas là pour discuter, vous et moi, à la radio, s'il n'y avait pas cet effet de serre. Parce que là, la température moyenne, c'est environ 15 degrés. Et donc, ce dont on parle beaucoup quand on utilise le terme effet de serre, c'est l'augmentation de température artificielle parce qu'on a rajouté des gaz dans le système. Mmh. Et donc, le 1,5 degré dont on parle, ça se rajoute à ces 15 degrés, si vous voulez. Là, voilà. Mmh. Et donc, naturellement, on a du CO2, du méthane, et tous ces gaz-là sont présents de manière naturelle dans l'atmosphère, avec les échanges, avec les végétations, l'océan et tout ça. Et donc, effectivement, ce qui est ennuyeux, c'est ce qu'on rajoute artificiellement dans l'atmosphère en brûlant des combustibles fossiles.
2 400 milliards de tonnes de carbone, le total de nos émissions depuis l'ère industrielle, c'est possible ça?
Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais oui, ça doit être quelque part dans... Oui, quelque chose comme ça, oui.
Question un peu basique, Cathy Clairbo, pour qu'on essaye de revoir un peu, de comprendre davantage de quoi on parle. Pourquoi est-ce que finalement le réchauffement climatique, c'est un problème?
Alors, comme je dis souvent aux étudiants, ça dépend où vous habitez et ça dépend de si vous vous inquiétez pour le reste du monde ou pas. Franchement, en Belgique, à part le fait que qu'il risque de pleuvoir plus, parce que plus de réchauffement égale plus d'évaporation de la vapeur d'eau, ça ne va pas être le pays en première ligne le plus embêté, parce qu'il ne fait pas très chaud en Belgique. Par contre, il y a des pays où une augmentation de 3 ou 4 degrés de température, ce qu'on s'attend à la fin du siècle pour certains pays, c'est énorme en fait. Et ce n'est pas l'augmentation en soi qui est ennuyeuse, c'est le fait qu'elle arrive assez vite et qu'il faut pouvoir adapter nos sociétés. Et donc, typiquement, les gens qui habitent dans les îles et qui voient le niveau d'eau monter, ça veut dire que tous les gens qui habitent au bord de l'eau, déjà, ils vont avoir les pieds dans l'eau, si vous voulez. Voilà, ça, c'est le problème numéro un, c'est la montée des eaux. Deuxièmement, il va falloir nous adapter en termes de culture, etc. Il y a des pays qui vont bien s'en sortir, par exemple l'Ukraine et la Russie. On va pouvoir cultiver des tas de choses qu'on cultive maintenant dans le sud de l'Europe et qu'on ne pouvait pas cultiver maintenant jusque-là. Mais il y a des pays surtout où il va faire beaucoup trop chaud pour vivre. Et quand vous combinez la température et l'humidité, un pays comme l'Arabie Saoudite, ça va être vraiment invivable. Donc ça veut dire qu'il faut adapter nos sociétés. Et là, par exemple, ils vont devoir vivre dans des endroits climatisés en permanence. Sinon, ça va vraiment, l'air devient littéralement trop chaud pour travailler dehors, si vous le voulez, par exemple. Et donc, c'est pas tellement la température en soi, parce que si on remonte très très loin dans le passé... on a pu avoir des températures comme celle-là, mais on a eu des millions d'années ou des milliers d'années pour s'adapter, de même les animaux, la végétation, etc. Ici, ça va assez vite, en fait, c'est ça le problème. Ce n'est pas tellement le nombre de dixièmes de degrés, on ne sent pas une différence de quelques... de 1 degré, on ne sent pas ça. Mais c'est la vitesse à laquelle ça se produit et l'espèce d'emballement, alors qu'on sait qu'on pourrait remplacer nos énergies fossiles par autre chose. En fait, on a les solutions, c'est juste difficile et cher à mettre en œuvre.
Oui, il y a une question scientifique, il y a une question politique,
voilà,
évidemment, d'implémentation et de mise en œuvre derrière, on le sait bien évidemment. Alors, après ce que vous venez de dire, Cathy Clairbo, on s'imagine qu'à terme, il va y avoir de plus en plus de réfugiés climatiques, peut-être. Alors, l'idée de base, c'est d'aller au pôle Nord. Sauf que le pôle Nord, il se réchauffe 4 fois plus vite que le reste de la planète. Alors, comment on explique ce phénomène? Et une fois de plus, on le voit bien dans votre article sur les illustrations. C'est rouge écarlate au pôle Nord.
Oui, tout à fait. Ça s'appelle l'amplification arctique. On comprend bien comment. En fait, toutes les masses d'air ont tendance à aller de l'équateur vers les pôles. C'est comme ça parce que l'équateur reçoit plus d'enseignement solaire et le système Terre est à l'équilibre. Et donc, en permanence... on voit les masses d'air de l'équateur vers chacun des pôles. Et donc, c'est comme si vous poussiez en permanence l'air vers les pôles, et donc ça se réchauffe plus vite dans cet espace-là. Et il y a des effets, on va dire des dommages collatéraux à ça, c'est par exemple les grands incendies qu'on voit régulièrement au Canada, en Sibérie. Nous, tous les étés, avec les satellites sur lesquels l'équipe travaille, on voit ces incendies vraiment monstrueux qui se développent à ces endroits-là, et c'est lié au fait aussi que la température se réchauffe. Donc, il suffit d'un éclair ou quoi que ce soit, La végétation est très très sèche parce que la température augmente. Et donc c'est vraiment les endroits du globe où il fait plus chaud et la glace fond terriblement vite au pôle Nord.
Alors, vous venez d'en parler, vous observez ça quotidiennement. Vous avez un projet phare qui est la mission YASI.
YASI.
Vous pouvez nous en dire un mot, c'est le projet sur lequel vous travaillez au quotidien.
Oui, c'est un instrument qui vole à bord d'un satellite depuis 17 ans maintenant, qui est à la base un instrument français. Et donc, il y a toute une équipe à l'ULB qui exploite, donc il y a une douzaine de personnes qui exploitent les mesures de cet instrument. Et donc, nous, ce qu'on fait au quotidien, c'est faire des codes informatiques pour... donc, c'est un signal électronique qu'on analyse. Et dans ce signal, on a les signatures spectroscopiques, c'est-à-dire les signaux que les molécules... les signaux des molécules qui interagissent avec la radiation infrarouge de la Terre. Et donc, l'instrument enregistre ces signaux. Et nous, on peut mesurer... deux fois par jour, à partout autour de la Terre, quelles sont les concentrations de différents gaz. Donc, prenons l'ozone, le méthane, le monoxyde de carbone. On peut mesurer leur concentration. On voit là où ils sont émis. On voit comment ils sont transportés par les vents. Et donc, on surveille à la fois les températures et à la fois les concentrations des gaz. Et ça permet d'avoir vraiment tous les jours des cartes de la Terre et l'état de santé, si vous voulez, de la pollution et de l'augmentation des gaz à effet de serre partout autour de la Terre.
Vous étudiez ou vous observez par exemple les éruptions volcaniques?
Oui, alors ça c'est...
Parce que
c'est, oui.
On le sait, hein, et par rapport à tout ce que vous nous avez expliqué précédemment, hein, Cathy Clairbeau, on comprend qu'une éruption volcanique, ça peut refroidir ponctuellement le climat.
Exactement, donc ce qu'on va observer, c'est pas l'éruption en tant qu'elle, c'est pas la lave qu'on observe, c'est les gaz qui sont émis par cette éruption, et on va les suivre vraiment comment ils sont déplacés par les vents. L'intérêt c'est d'abord de pouvoir parfois prévenir les populations locales, mais ça il y a d'autres instruments en général au sol qui le font aussi. Mais aussi d'éviter que les avions ne passent dans ces fumées d'éruption volcanique et n'abîment leurs hélices et leurs moteurs. Mmh. Et donc, effectivement, quand il y a une éruption volcanique violente qui se produit, et surtout localisée près de l'équateur, ben, ça peut générer en fait, de l'acide sulfurique. Donc, au départ, c'est du SO2, du dioxyde de soufre, mais qui va réagir dans l'air en s'oxydant, en réagissant avec la vapeur d'eau. Et faire une petite couche d'acide sulfurique et qui, elle, va aussi agir comme un écran à ce rayonnement solaire.
Merci beaucoup, Cathy Clairbeau. Un dernier mot, mais j'imagine que ce n'est pas votre rayon d'action, mais vous êtes une scientifique, vous observez, vous analysez ces données. Après, c'est la part du politique qui doit s'emparer de la question pour éventuellement faire évoluer les choses. Vous avez un conseil à leur donner ?
Alors, moi, c'est vrai que mon rôle de scientifique, c'est d'observer, d'analyser les données. C'est aussi, je pense, d'essayer d'expliquer... le plus simplement possible, ce que j'essaie de faire en participant, par exemple, à votre émission, quels sont les challenges et qu'est-ce qu'on voit, en fait. Et donc, c'est vrai que c'est difficile parfois à comprendre pour moi pourquoi on attend aussi longtemps avant de changer les choses. Et donc, là, je sors un peu de mon rôle de scientifique, mais donc les conseils, c'est ce qui est écrit dans les rapports du GIEC, quoi. Donc vraiment, je pense que tout est là, en fait. C'est vraiment, pour nous, c'est vraiment la bible de tout ce qu'on connaît sur le climat, c'est dans ces rapports du GIEC, qui c'est un travail monstre pour les scientifiques qui participent et qui ont lieu, qui sortent tous les 4, 5, 6, 7 ans. Et donc, je pense que c'est vraiment les informations, tout est là, quoi. Ce qu'il faut faire aussi, le premier, en fait, il y a trois volumes. Et le premier volume, c'est le constat scientifique. Donc ça, c'est plutôt les équipes avec lesquelles je travaille participent à ce volume-là. Et après, les volumes 2 et 3, c'est quelles sont les mesures qu'on peut mettre en œuvre, justement, pour nous adapter à cette évolution, ce réchauffement climatique.
Merci, Cathy Clairbeau. Je rappelle le titre de l'article que vous avez publié dans le magazine The Conversation, magazine en ligne scientifique. Pourquoi le record de température en 2024 est une surprise pour les scientifiques. Merci.
Merci à vous.
Pourquoi le record de température en 2024 est une surprise pour les scientifiques? C'est le titre que Cathy Clairbeau a donné à l'article qu'elle a publié dans la revue scientifique en ligne The Conversation. Cathy Clairbeau, qui, je vous le rappelle, est directrice de recherche CNRS à la Sorbonne et professeure invitée à l'ULB, à la Faculté des sciences. Elle a réalisé une thèse en sciences physiques dans le domaine de la spectroscopie à l'ULB. Et là, elle oriente aujourd'hui ses recherches vers l'étude de l'évolution de la composition atmosphérique sous l'influence des activités humaines. Et comme elle nous l'a dit au cours de cette interview, son projet phare, c'est la mission YASI, qui vole actuellement sur la famille de satellites METOP. Ces dernières années, avec son équipe, elle a démontré le potentiel des sondeurs infrarouges pour surveiller les pics de pollution, les grands feux de biomasse, les panaches de centres volcaniques et les émissions d'ammoniac associées à l'agriculture intensive et la formation, bien sûr, du trou dans la couche d'ozone, ce dont elle nous a parlé au cours de cet entretien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Au revoir.